Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Pascal Masirika.
Au sommaire de cette édition d'information, mise sur pied à l'Assemblée nationale ici à Kinshasa d'une commission spéciale pour entendre les députés nationaux ayant jeté un discrédit sur les députés nationaux qui toucheraient 21 000 dollars américains. Parmi eux, Deli Sesanga s'est dit disposé à affronter cette commission d'enquête et prendre ses responsabilités jusqu'au bout. C'est aujourd'hui la journée mondiale du cœur. Pour se mettre à l'abri des maladies cardiovasculaires, le docteur Zéphirin Kamwanga recommande de privilégier une alimentation saine, sans sel ni graisse et un exercice physique 3 fois la semaine. Notre invité, c'est le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Tommy Tambwe parle de la mise en œuvre de ce programme en RDC et des contraintes auxquelles il fait face dans les provinces sous état de siège. Madame, messieurs, bonsoir. Affaire 21 000 dollars américains touchés mensuellement par les députés nationaux en RDC. Une commission spéciale temporaire vient d'être mise sur pied pour entendre les députés Jean-Baptiste Muindo Kasekwa et Deli Sesanga au cours d'une séance plénière d'hier, mercredi. Le député national Nanou Memba a dénoncé des allégations mensongères au sujet de ce montant. L'élu de Kipushi affirme que les affirmations des Deli Sesanga et de Jean-Baptiste Muindo Kasekwa ont jeté un discrédit aux députés nationaux. Ces propos ont été recueillis par Michel Kifindangoy.
Nous avons tous suivi l'opprobre que les collègues Jean-Baptiste Kasekwa et Deli Sesanga ont jeté sur nous, notamment en distillant à travers différents médias que chaque député national, y compris moi-même, est bénéficiaire de 21 000 dollars américains, voire même 27 000 dollars américains. De façon consciente et pour des visées non avouées, nos deux collègues nous ont jetés en pâture pour que cette population déverse sur les députés nationaux que nous sommes, non seulement sa colère inhérente aux difficultés du moment, mais aussi la loi du talion sur nous. Je sollicite de l'auguste assemblée la mise sur pied d'une commission spéciale temporaire qui aura pour but d'entendre les deux collègues afin qu'ils puissent nous éclairer sur les motivations profondes qui les ont poussés à tromper l'opinion par des allégations mensongères.
En réaction à cette préoccupation, le député national Deli Sesanga s'est dit disposé à affronter cette commission temporaire et à prendre ses responsabilités jusqu'au bout. Il promet de rendre compte à la nation avec des preuves. Tout en assumant ses propos, Deli Sesanga s'est dit disposé à poursuivre son combat, quel qu'en soit le prix. On l'écoute.
Je suis en train de mener depuis des années un combat pour la réduction du train de vie de l'État. Ensuite, je suis un député élu, je suis à ma troisième législature aujourd'hui à siéger dans cette Assemblée nationale et je suis très serein à pouvoir répondre à toute invitation de quelques commissions que ce soit dans la vérité et dans l'intégrité. J'ai toute ma sérénité, mais également à éclairer l'opinion publique par les éléments de preuve que la soi-disant commission demanderait à pouvoir étaler. Et donc, pour le moment, on me dit qu'il y a une commission qui est mise en place. Je ne suis pas de nature à fuir mes responsabilités. J'assume mes propos, je les assumerai jusqu'au bout. Je mènerai ce combat, quoi qu'il en coûte, quelles qu'en soient les sanctions, au sein ou en dehors de l'Assemblée nationale, auprès de mes compatriotes, pour que nous ayons un État qui soit un État modeste, mais efficace, capable de répondre aux besoins de notre population.
Politique encore, l'enrôlement des électeurs aura lieu dans les territoires de Kwamout, selon la gouverneure de la province du Maïndombé. Madame Rita Bola a assuré ses administrés après l'échange qu'elle a eu hier mercredi après-midi avec le président de la CENI sur les dispositions qui sont arrêtées pour faire venir les déplacés après les affrontements intercommunautaires. Elle a été jointe par Jeff Ngoy.
Nous venons avoir des assurances pour notre territoire de Kwamout qui est un peu dépeuplé et maintenant après, qu'allons-nous faire? Comment est-ce que ça va se passer? Quelles sont les stratégies mises en place par la CENI et par le gouvernement central pour que nous puissions faire revenir cette population, afin qu'elle puisse participer à l'enrôlement? L'enrôlement aura bel et bien lieu à Kouamout, puisque les stratégies seront mises en place. La population, les militaires ont déjà apaisé la population va rentrer et nous, le gouvernement tant central que provincial, nous allons rassurer cette population-là en ramenant le bon vivre et le vivre ensemble après. Et puis, il y aura bien et bien des élections et l'enrôlement à Kouamout.
Santé à présent, privilégier une alimentation saine, sans sel ni graisse et un exercice physique 3 fois par semaine. C'est ce que recommande en tout cas le cardiologue Zéphirin Kamwanga à l'occasion de la célébration ce jeudi de la Journée mondiale du cœur. Il affirme que la maladie cardiovasculaire représente 31% de la mortalité mondiale. Il a été joint par Kelly Yoka.
Parmi les facteurs de risque, de façon globale, nous avons une mauvaise alimentation, un manque d'activité physique, le tabagisme et l'usage nocif d'alcool. Pour y remédier, nous avons 2 volets. Le premier volet, c'est d'abord le volet mesures hygiéno diététiques. C'est-à-dire, il faut une alimentation saine, une alimentation riche en fruits, riche en légumes, pauvre en sel, pauvre en sucre et pauvre en graisse. Il faut une activité physique régulière à raison de 30 à 45 minutes 3 fois par semaine. Et il faut limiter la consommation d'alcool, arrêter de fumer pour ceux qui sont tabagiques et en plus de ça, réduire des poids, diminuer le stress. Ça, c'est concernant les mesures hygiéno-diététiques. En dehors de ça, pour ceux qui ont déjà des maladies cardiovasculaires avérées, il y a des traitements spécifiques en rapport avec ces anomalies-là.
À Beni, au Nord Kivu, pendant ces temps, le personnel soignant du centre de santé de Mangina a entamé hier mercredi une grève sèche pour réclamer 2 ans de salaire impayé. La population locale demande aux autorités du pays de régler ce litige au plus vite. Marc Maroufimbo revient justement de Mangina. Voici son reportage.
Nous sommes étonnés, c'est fini pour nous, s'exclament 3 femmes malades retrouvées à l'entrée de la clôture du centre de santé de Mangina. Ici, plus de 200 malades qui y étaient internés ont tous quitté leur lit, les personnels soignants est resté cloîtré, chacun dans son coin. La société civile de Mangina redoute les pires. Mwongozi Kakule Vunyati est son président.
Les autorités sont au courant de cette grève. Si elles décident de sacrifier toute une population de la commune de Mangina, c'est-à-dire, nous comprenons que c'est manque de volonté que ces autorités ne veulent pas réagir aux désidérata de ces personnels soignants.
Les grévistes n'attendent qu'une chose, la réponse des autorités pour les paiements de leur prime de 2 ans de prestation. Florine Kavira-Kisonia, infirmière titulaire du centre de santé de Mangina.
Jusque-là, nous n'avons pas une réponse satisfaisante de la part de nos interlocuteurs. Nos recommandations est qu'ils nous aident à avoir une solution le plus tôt possible.
Le médecin de chef de zone de Mabalako, Amissio Abutembo, n'a pas été joignable ce matin. Mais les sources proches de cette structure indiquent que les pourparlers sont à court avec la division provinciale de santé afin de trouver rapidement une solution à cette crise sanitaire dans la commune rurale de Mangina. De retour de Mangina, Marc Maroufimbo, Radio Capri.
Nord Kivu encore, la Commission nationale de prévention routière déclare avoir enregistré plus de 500 cas d'accidents au premier semestre de l'année en cours ayant coûté la vie à 30 de personnes. Ces statistiques ont été annoncées hier mercredi après-midi lors d'une évaluation faite par ce service. Un reportage.
Au total, 554 cas d'accidents de circulation routière, dont 135 décès, environ 470 blessés graves et des centaines de dégâts matériels répertoriés par la CNPR de janvier en juin de l'année en cours. La ville de Goma vient en tête avec 192 cas, dont 32 décès et plus de 130 blessés graves, ainsi que des dégâts matériels importants. Un responsable chargé technique à la CNPR Goma indiquait, pour la plupart de ces cas, l'excès des vitesse, l'ivresse au volant, des pannes techniques et l'imprudence seraient parmi les causes principales de ces accidents. Monsieur Socrate Kaindo invite le conducteur de faire preuve de responsabilité une fois sur la voie publique et cela pourrait, dit-il, éviter ces incidents mortels. À cette occasion, la CNPR réitère son appel à tout conducteur des engins de respecter surtout les dispositifs et régulations de prévention des accidents et au respect strict du code de la route. Goma, Denise Louquet, Radio Capi.
Ensuite, qui vous, la cessation des cours dans les universités et instituts supérieurs publics de la ville de Bukavu plonge les étudiants dans l'incertitude du lendemain. Héritier Kapolé, étudiant de troisième graduat en psychopédagogie, orientation scolaire et professionnelle à l'ISP Bukavu, demande aux enseignants de revendiquer tout en dispensant les cours. On l'écoute.
Vis-à-vis de la situation de la grève des professeurs, vraiment nous ne sommes pas contents parce que chez nous, ça nous fait toujours rentrer en arrière au lieu d'avancer en matière. D'autres universités privées, là on avance et ils sont au moins en avance plus que nous. Ce que nous pouvons recommander au gouvernement, qu'ils prennent leurs responsabilités tout en payant les enseignants comme ils demandent et surtout que les enseignants aussi aient pitié de nous parce que nous, les étudiants, nous souffrons et surtout nos parents souffrent souvent quand ils nous envoient des frais académiques. Et comme nous payons les frais académiques, les enseignants peuvent aussi se comporter comme des parents. Ils doivent continuer à nous enseigner pour que nous puissions terminer l'année en paix.
Le président de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur précise que les enseignements continuent à Bukavu avec les professeurs visiteurs et d'autres enseignants non concernés par les revendications. Partons maintenant pour la province du Maniema où le promoteur de la savonnerie Nassa annonce la fermeture de son entreprise. C'est confié en Radio Kapi hier mercredi. Sabiti Jafari Alfani affirme qu'il a ainsi décidé suite au climat des affaires non assainies et l'inexistence du pouvoir d'achat de la population. À Kindu, c'est une correspondance de Florence Kizalunga.
C'est avec la mort dans l'âme que Sabiti Jafari Alfani est en train de fermer son entreprise. Selon ce dernier, la savonnerie Nassa est étouffée par plusieurs choses.
Donc je suis obligé de la fermer parce que ça ne vaut plus la peine. Nous sommes asphyxiés par les effets du Covid, la pénurie des matières premières, le pouvoir d'achat de la population qui est inexistant, le climat des affaires aussi qui est très sombre, qui n'est pas assaini. Donc avant qu'on ferme, si l'État peut s'assumer pour nous donner un ballon d'oxygène, on ne peut pas le refuser. Parce que nous vivons dans des contraintes fiscales. Notre chiffre d'affaires n'arrive pas à atteindre 500 000. Mais ce que nous sommes en train de débourser par mois au service de l'État, ça environne les 400 000 francs.
C'est une grande désolation pour les travailleurs qui ne savent plus où aller travailler. Bitanga Losuedi est l'un d'eux.
Vraiment, c'est un regret de notre part parce que c'est là où nous gagnons notre pain. Mais si la savonnerie est fermée, où est-ce que nous allons encore gagner notre pain? Du fait qu'à Kindu, il n'y a plus d'autres endroits où nous pouvons aller être embauchés. C'est la savonnerie Nassa qui nous assistait dans des différentes situations.
Signalons que c'est depuis 2017 que la savonnerie Nassa existe au Maniema et fournit différents types de savons à la population. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
28 ans après le génocide au Rwanda, le procès du financier présumé Félicien Kabuga a démarré ce jeudi à La Haye aux Pays-Bas. L'ancien homme d'affaires, âgé aujourd'hui de 87 ans, est accusé d'avoir joué un rôle important dans le massacre qui a fait plus de 800 000 morts entre avril et juillet 1994, essentiellement au sein de la communauté Tutsi. Dans cette affaire, plus de 50 témoins devraient être entendus. Le président russe Vladimir Poutine va formaliser demain, vendredi à Moscou, l'annexion par la Russie des territoires ukrainiens. Une annexion largement dénoncée par la communauté internationale, mais que Moscou a menacé de défendre même avec l'armée nucléaire. La mesure a été annoncée ce jeudi par le Kremlin à la suite des référendums qui ont été lancés dans les territoires occupés par les forces pro-russes. Et puis, la vice-présidente des États-Unis s'est rendue cet après-midi en Corée du Sud après avoir assisté aux funérailles de l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe à la faveur d'un entretien avec le président sud-coréen Yoon Suk-yi. Elle est allée également dans la zone démilitarisée séparant les deux Corées. Le contexte sécuritaire très tendu, Pyongyang ayant tiré mercredi après-midi deux missiles de courte portée.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. Tommy Tamboué parlait de la mise en œuvre de ce programme et des contraintes auxquelles il fait face dans les provinces sous état de siège. Il est interviewé par Paul Matendo.
Tommy Tamboué Ushindi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous revenez d'une tournée dans les provinces sous état de siège. Quel est le constat fait par le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation?
J'ai eu le privilège de faire partie de la délégation qui a accompagné le premier ministre chef du gouvernement pour aller évaluer l'état de siège. J'ai constaté agréablement qu'au Nord Kivu comme en Ituri, la population, du moins tous ceux qui ont été consultés, tous ont exprimé la nécessité de rendre opérationnel le processus de DRCS. Et pour moi, c'était une occasion. Tellement que c'était évoqué dans chaque réunion, dans chaque consultation, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président du comité de pilotage, m'a donné 15 minutes pour exprimer et expliquer aux participants le processus, le niveau d'avancement du processus PDDRCS.
Quelles sont exactement les activités dévolues à votre programme ?
Notre mission en tant que PDDRCS répond directement à quatre préoccupations. La première, pourquoi il y a des groupes armés et qui sont les groupes armés? La réponse, les groupes armés viennent des communautés. Donc, ce sont les communautés. Pourquoi ils prennent les armes? Pourquoi ils se défendent? Les communautés disent, partout où nous les avons rencontrés, ils disent parce que l'État est dans une situation de ne pas nous aider. Donc, ça appelle la question de la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Troisième, que faut-il faire pour que maintenant la paix, la sécurité et tout ce qui entoure cette restauration de l'autorité de l'État soit effective? Il faut poser la question, la réponse, il faut répondre aux besoins des communautés. Ce que nous appelons ici relèvement du niveau de vie des communautés. Résoudre le problème des communautés. Ceci nous amène à la question principale stratégique. Quel est le problème exactement au niveau des communautés? Il y a un problème de conflit, il y a un problème de cohésion sociale. Et donc, il faut stabiliser. Et quand nous parlons de la stabilisation, nous parlons de problèmes de paix, de résolution de conflits, la transformation de conflits et de cohésion sociale. La gouvernance sécuritaire, la gouvernance économique, la gouvernance minière, la gouvernance forestière et foncière, il faut proposer les activités.
Vous venez de citer là beaucoup d'activités à réaliser. Est-ce que vous en avez le moyen?
Le gouvernement a décidé de prendre maintenant à bras le corps ce dossier-là. Il y a également des partenaires extérieurs, bien sûr. Nous sommes en dialogue avec la Banque mondiale, l'Union européenne, la MONUSCO, donc avec toutes les agences des Nations Unies.
En dehors des moyens, quelles sont les autres contraintes auxquelles vous faites face?
Il y a cette question que nous avons dit, la volonté politique. Il y a la question également de la volonté des communautés. Les communautés ont toujours un rôle à jouer dans ce programme. Mais aussi, les députés et les sénateurs ont toujours un rôle à jouer. Et donc, ici, si je peux me permettre de dire, c'est l'implication de toutes les couches de la population dans le programme, parce que le programme est communautaire. Mais la paix et la sécurité, si nous faisons sortir le groupe armé, mais qu'il n'y a pas une police de proximité, il n'y a pas une justice, il n'y a pas une territoriale de développement. Donc ce sont pourquoi le programme de 145 territoires est en harmonie avec le PDDRCS. Parce que la restauration de l'autorité ne doit pas être un slogan.
Tommy Tambouye Ushindi, merci.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Okapi, le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Tommy Tambouye a été interviewé par Paul Matendo. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir écouté infiniment. Merci à Richard Junior Kamunga qui m'a accompagné.